Bonjour, merci d'être venu à cette présentation donc, du livre de Daniel Cérézuel, La technique et la chair. Je m'appelle Sébastien Morillon, je suis doctorant en histoire contemporaine. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'association aussi Aquitaine Charbonneau et Lulle, qui a été fondée par des amis et des disciples de Bernard Charbonneau et de Jacques Ellul pour faire vivre localement l'héritage intellectuel de ces deux penseurs. Cette activité de l'association, ça passe par des lectures critiques, la diffusion des textes et des idées de ces deux penseurs bordelais. Et ça passe aussi pour cette année à une diffusion des textes de Charbonneau et d'Ellul via Internet en partenariat avec l'encyclopédie de l'Agora. Il s'agit dans cette association de mener sur la base de ces réflexions de porter une pensée critique et libre à propos de la société moderne, des enjeux qu'elle pose, et en particulier de jeter un regard critique sur le développement économique, technique et scientifique. Dans ce que Bernard Charbonneau a appelé la grande mue de la société moderne. Alors nous voici au cœur du sujet de ce soir, avec le livre de Daniel Cérézuel, qui a la particularité d'être à la fois philosophe et sociologue, qui a d'ailleurs été le premier président de l'association dont je viens de vous parler, qui a eu pour maître ici en France Jacques Ellul, Jean Brun également, et aux États-Unis, où il a fait une partie de ses études et de ses enseignements, Hans Jonas. Il est spécialiste de la philosophie de la technique et récemment, il a écrit un autre livre qui vous est présenté d'ailleurs sur la table à l'entrée, un livre intitulé « Écologie et liberté » sur l'œuvre de Bernard Charbonneau, une synthèse tout à fait remarquable. Il a publié également dans un autre domaine, et donc c'est l'autre volet de son œuvre, des livres sur l'action sociale, dont le dernier, en 2011, porte sur l'autoproduction accompagnée, un levier de changement qui a été publié aux élections RS à Toulouse en 2010. Alors il nous propose avec ce livre, La technique et la chair, une synthèse des travaux qu'il a menés ces dernières années sur le phénomène technicien, et dont je voudrais, avant de lui laisser la parole, je voudrais souligner d'office deux qualités. D'abord, c'est celle de nous mettre en contact avec, de nous mettre en présence de pensées qui sont souvent méconnues, avec aussi des références à la pensée sociologique et philosophique américaine. Donc ça, c'est la première qualité que je voudrais souligner. Et l'autre qualité, indépendamment du fond, c'est aussi la très grande lisibilité du livre, ce qui me permet, en tant que historien géographe, de pouvoir le lire, ce qui est une très grande qualité. Donc c'est un livre qui est lisible et compréhensible par les non-philosophes. Voilà. Voilà pour la présentation. Je vais maintenant te laisser la parole, Daniel.
Merci Sébastien. Donc d'abord, en réponse aux remarques que tu viens de formuler, en ce qui concerne le livre que j'ai écrit sur Charbonneau, effectivement, je peux affirmer qu'aujourd'hui, c'est le meilleur qu'on puisse trouver, parce que c'est le seul qui a été écrit. Bon. C'est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, malheureusement. Alors, un point important, effectivement, sur la question de la lisibilité. Alors, j'ai une formation de philosophe, et c'est vrai que j'ai intitulé ce livre « Essai de philosophie de la technique ». Alors, Je pense que, en tout cas, certains de mes collègues philosophes et certains de mes collègues sociologues seront mécontents. Ils trouveront que c'est ni un livre de sociologie conforme au canon de la discipline, ni un livre de philosophie conforme également au canon de la discipline. Bon. Alors, j'ai fait un effort d'écrire ce livre, en réunissant ces essais, de faire un travail qui puisse être lu non seulement par des philosophes ou des collègues universitaires, mais aussi par un public plus large, par le public de ceux qui s'interrogent sur l'évolution de notre société industrielle et technicienne. Et d'une certaine manière, ces questions-là concernent tout le monde. Alors, pour parler de la technique, j'ai essayé d'être aussi peu technique que possible. De réfléchir sur la nature et le sens des évolutions sociales que nous connaissons, si possible avec les mots de tout le monde. Bon, alors, Sébastien dit que c'est lisible, je suis content. Quand je relis, je me dis que c'est loin d'être parfait, et malheureusement, tout le monde n'a pas le génie de Montaigne ou de Pascal qui était capable de dire des choses très profondes dans un langage commun. En tout cas, je me suis appliqué. Quelques mots sur l'arrière-plan, l'itinéraire un peu personnel qui m'a conduit à rédiger au cours de 25 années finalement, puisque un des chapitres a été rédigé en 86, si mes souvenirs sont bons. Fait plus que cela même. Quelques mots donc sur mon itinéraire philosophique. En fait, il a eu son origine dans des expériences de jeunesse que je qualifierais d'expériences malheureuses. En effet, j'ai toujours été, de par ma sensibilité, fasciné par le monde des eaux et des rivières. Et il se trouve que j'aime la pêche à la truite. Or, dès ma jeunesse, et aujourd'hui encore, je dirais encore plus, que lors de ma jeunesse, j'ai eu constamment le sentiment de battre en retraite devant les effets dévastateurs du développement technique qui me prive de plus en plus de ce qui est pour moi la possibilité d'un rapport heureux avec le monde. Je ne suis jamais plus content que quand je suis au milieu d'une rivière à lancer ma ligne. Et la question de la technique, c'est d'abord pour moi, finalement, une affaire personnelle qui m'atteint dans ma chair, si j'ose dire. Ce saccage du monde des eaux, je l'ai éprouvé comme un phénomène qui est à la fois global et irrésistible, tout au moins à l'échelle de la vie d'un individu. Ou tout ce que je peux dire, c'est que plus ça va, moins ça va, dans ce domaine-là. Le problème des effets désorganisateurs du changement technique rapide sur les milieux naturels que je connaissais et que j'ai aimé, je l'ai donc éprouvé de manière très passionnée. Il est clair que ça a donné un caractère un peu particulier à ma réflexion philosophique, peut-être dans certains passages, peut-être excessivement engagé. Bon, ce qui m'a aussi beaucoup affecté, et là, on rejoint aussi un des fonds de mon inspiration, ce fut de constater au cours des années, la fin des années 60 et au début des années 70, que dans les milieux que je connaissais, et en particulier dans les milieux de jeunes intellectuels, ces problèmes n'intéressaient personne. Et donc je constatais non seulement une cécité à l'égard de certaines conséquences négatives du progrès technique, mais aussi, et ce qui était peut-être plus bizarre, une résistance à reconnaître ces conséquences et à les enregistrer. Et évidemment, dans ces conditions-là, il était très difficile d'en parler. J'ai donc pu constater, à partir de questions très concrètes, que les logiques techniques s'accompagnaient d'une logique culturelle qui en redouble les effets et qui rend de ces effets irrésistibles parce que cette logique culturelle dispose les esprits à participer à tout accroissement de la puissance technique. Alors, quand j'étais jeune, j'ai lu, je crois que c'était l'année du bac, en 66, l'ouvrage de Jacques Ellul sur la technique ou l'enjeu du siècle, qui avait été publié en 1954, et dans lequel il développait l'idée, finalement, d'un changement technique qui se déploie de manière autonome, c'est-à-dire au fond comme une sorte de processus sans sujet qui s'auto-accélère et qui transforme évidemment à la fois la vie sociale, le rapport des individus entre eux, mais aussi le rapport à la nature qui crée un certain nombre de problèmes à la fois dans la société et dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement. Bon, à l'époque, cette notion d'autonomie fut souvent mal comprise, elle fut aussi jugée scandaleuse. Et je me souviens encore de la phrase d'un théologien philosophe qui écrivait, Philippe Roqueplot, qui écrivait dans un livre « Penser la technique » de 1983, que la thèse de l'autonomie de la technique est fausse parce qu'il faut qu'elle le soit. Hein, il faut que nous ayons la maîtrise de ce processus dans lequel nous sommes emportés. Alors, pour ma part, il me semblait au contraire que cette notion d'autonomie de la technique, en particulier à l'égard des valeurs, ce que un philosophe comme Gilbert Autois appelle l'anéthicité, c'est-à-dire la non-éthicité, l'amoralité, si vous voulez, du progrès technique, et qu'il irait pourtant assez bien les constats que j'avais pu faire. Et je pense qu'un philosophe plus récent, Thibon Cornillot, utilisait le terme, pour caractériser finalement la condition actuelle, le terme de déferlement technologique. Vous voyez, hein, Charbonneau utilise souvent la notion de grande mue, hein, une espèce de transformation sourde, hein, de la civilisation. Certains auteurs ont employé aussi comparer ce phénomène à une sorte de glissement de terrain, d'avalanche, hein, qui emporte tout. La notion de déferlement technologique, elle est intéressante parce que effectivement, les transformations arrivent par vagues, les unes après les autres, et comme dans une mer agitée, on a à peine le temps de reprendre sa respiration qu'on a déjà à nouveau la tête sous l'eau et qu'on est confronté à une nouvelle mutation technique qui bouleverse à la fois les relations sociales et l'ensemble de la société, voire de la nature. Bon, cette idée d'Ellul, finalement, d'une sorte de déploiement autocausal de la technique, c'est-à-dire d'une sorte de ce processus autonome, me semblait appeler une élucidation philosophique. En effet, il n'y a pas de technique sans pensée, sans projet humain qui mobilise un minimum de rationalité. Et en même temps, la technique, dans son déploiement, semble s'affranchir de nos projets, de nos valeurs, ce qui rend si difficile la correction de ces effets désorganisateurs lorsqu'on finit par s'en apercevoir, qu'ils sont contraires à nos valeurs. Donc, en même temps, on a à la fois une autonomie qu'on peut constater au plan sociologique et en même temps, le progrès technique requiert la participation active de la pensée, l'adhésion. Et cela, j'avais pu aussi le constater. Donc, une des difficultés pour moi, jeune intellectuel, c'était d'essayer de voir comment on pouvait tenir les deux ensemble. Quel était à la fois le poids respectif entre la participation des individus, des personnes, des groupes, participation qui s'appuie sur ce qui se passe dans la pensée, et en même temps les processus anonymes collectifs. Et c'est ici qu'interviennent deux notions qui jouent un rôle important dans cette collection d'essais. Ce sont les notions d'esprit du technicisme et d'imaginaire technique. Et puis une troisième notion qui est la notion de chair. D'ailleurs, je dis en passant que ce livre est un recueil d'essais de philosophie de la technique. Ce n'est pas une philosophie de la chair. Par contre, j'essaie de réfléchir sur la technique en mobilisant par moments, effectivement, cette notion de chair qui me semble être un des dénominateurs communs des différents essais que j'ai pu écrire. On pourra éventuellement préciser les choses. Alors, cette notion de cette notion d'esprit du technicisme. Pourquoi l'introduire ? D'une certaine manière, c'est à Ellul que je dois cette notion. Alors, lui, dans ses, vous savez que ceux qui connaissent la pensée d'Ellul, il a une pensée qui est très dialectique, qui l'amène à poser parfois ensemble deux points de vue en tension, voire en opposition. Alors, d'un côté, il constate ce qu'il appelle le phénomène technique qui caractérise le monde moderne, uniquement d'ailleurs, hein, avec cette autonomie, cette accélération, cette ambivalence d'un progrès technique qui souvent crée autant de problèmes qu'il n'apporte de bienfaits. Et puis, avec cette multiplication des effets indésirables. Et ça, il a dans un de ses livres, dans La technique ou l'enjeu du siècle, une définition étonnante. Il dit « Le phénomène technique, c'est la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps à rechercher en toute chose la méthode la plus efficace. » Vous voyez, on aurait pu penser que c'était une caractérisation de phénomène objectif. Or, il insiste sur le subjectif, puisque cette préoccupation... de l'immense majorité des hommes, à accroître leurs moyens, à accroître leur puissance dans tous les domaines, est inséparable d'une conviction, à savoir que toute augmentation de la puissance, de nos techniques, de l'efficacité, des procédés que nous avons, est bonne pour l'homme. Et pour Ellul, d'ailleurs, cette conviction est caractéristique de notre temps. On ne la trouve pas dans les autres sociétés, dans les sociétés prémodernes, non occidentales. Et d'une certaine manière, cette description nous dit que le phénomène technique est donc inséparable d'un esprit du technicisme, tout comme d'ailleurs, et ça c'est une idée finalement assez analogue à celle de Max Weber au sujet du capitalisme, qui disait le capitalisme ne peut exister que parce qu'il y a un esprit du capitalisme. Il y a un certain nombre de dispositions dans la culture et dans la société, un certain nombre de représentations, un certain imaginaire, pour Weber c'était un imaginaire religieux, n'est-ce pas, qui pousse les hommes à participer au développement du capitalisme. Et alors, la question et d'ailleurs, je précise qu'Ellul avait écrit une étude assez approfondie sur Max Weber et cette notion d'esprit du capitalisme. Et d'une certaine manière, j'ai un peu repris cette question-là. Les articles que j'ai réunis, les études distinctes que j'ai réunies, comme je vous le disais tout à l'heure, ça s'appuie sur la notion de chair. Et que cette notion de chair soit utile pour penser la technique, cela tient à trois raisons qui correspondent en gros aux trois parties du livre. Premièrement, c'est parce que l'homme est un être de chair, et pas seulement une pensée logée dans un corps, que son rapport est technique et aux techniques est nécessairement médiatisé par un imaginaire. Un imaginaire techniciste qui s'organise en mythes sensibles tout autant qu'en idées abstraites. Et pour montrer la force et la continuité de cet imaginaire, dont j'ai consacré un certain nombre de chapitres de ce livre, a montré qu'il est à l'œuvre, tantôt de manière très formalisée, c'est-à-dire théorisée sous forme d'idées, de théories, tantôt de manière très informelle dans des productions de nature très différentes. Donc finalement, j'ai été obligé de balayer, si vous voulez, j'ai été amené à balayer des productions qui vont de spéculations proprement philosophiques, des œuvres littéraires, des films, des articles de presse, pour montrer, essayer de caractériser la puissance de cet imaginaire techniciste dans notre civilisation. Deuxièmement, l'attention au caractère charnel du mode d'être au monde de l'homme m'a conduit à faire un pas de plus, mais en sens inverse, pour appréhender non plus les causes, mais certaines conséquences de ce dynamisme technicien, pour appréhender certains des problèmes, finalement, de ce changement technique, et pour apporter peut-être un éclairage sur les coûts et les limites du processus de technicisation de notre monde. Et ce qui m'a, par exemple, la dévitalisation de certaines strates de la culture, hein, de ce qu'on pourrait appeler ce que certains sociologues et philosophes appellent le terreau symbolique, que nous partageons tous. Cette dévitalisation de cette strate symbolique de la culture se traduit par des problèmes sociaux que j'avais pu observer, en particulier à travers mes travaux de sociologie sur les questions de pauvreté et d'exclusion sociale. Et en particulier le fait que nos sociétés modernes se caractérisent, dans certains domaines, par une panne des transmissions, d'une génération à l'autre, transmission de comportement, transmission de savoir-faire, transmission de savoir-vivre aussi. Et c'est parce que l'homme est un être de chair que le déploiement rapide de la puissance technicienne peut avoir des effets désorganisateurs, voire déshumanisants, tant au plan individuel qu'au collectif. Et troisièmement, un troisième niveau, cette notion de chair me paraît éclairer le fait que, si souvent, nous avons du mal à croire ce que nous savons sur les effets de la technique. Surtout lorsque ce que nous savons contredit notre imaginaire techniciste dans lequel nous baignons. Dans la société moderne, tout comme dans les sociétés anciennes, l'imaginaire fait partie de l'être intime de l'homme de chair. Cet imaginaire techniciste lui colle littéralement à la peau. Et par exemple, lorsqu'on évoque l'idée d'un certain renoncement à des formes de puissance qui pourraient être nécessaires pour répondre aux problèmes posés par l'accélération du changement technique, eh bien, l'homme de la société du développement réagit comme si on lui arrachait la peau et il ne sait répondre que par une demande de plus de technique. Une des raisons, une des forces qui sous-tend cette mythologie technicienne dans laquelle nous baignons, c'est que la technique n'est pas neutre existentiellement. Contrairement à une interprétation étroitement rationaliste, notre rapport à la technique ne s'établit pas seulement sous le signe du besoin. Il ne s'établit pas seulement sous le signe de l'utilité, mais aussi sous le signe du désir. Et là, c'est vrai que je me suis beaucoup appuyé dans les différentes analyses que j'ai pu mener au sujet de, justement, ces mythologies technicistes, sur l'œuvre d'un philosophe français assez peu connu, sous-estimé, je pense, c'est Jean Brun, qui avait écrit peu de temps avant de mourir un livre tout à fait remarquable qui s'appelle « La machine et le rêve », dans lequel il montre, en fait, qui synthétise toute une année, toute une vie de réflexion sur la technique, et dans lequel il montre que la genèse de diverses techniques traduit une volonté, un désir de transmuter et de dépasser les cadres de l'existence, et en particulier libérer la vie humaine de ces cadres spatio-temporels. Le dynamisme technique est alimenté par un désir d'illimité, d'infinité, d'immortalité, et il montre de manière assez convaincante que sur la technique se greffe ce qu'un autre philosophe, René Girard, appelle une aspiration déviée à la transcendance. C'est-à-dire que nous attendons, d'une certaine manière, trop de nos techniques. Pas simplement de répondre à nos besoins, voyez, mais aussi de transformer l'existence, de libérer l'existence de toutes ses limites. Donc il y a là un désir de dépassement de la finitude existentielle qui va conférer ce qu'en philosophie on pourrait caractériser comme une vocation ontologisante à la technique. Et ce désir d'échapper finalement aux limites de l'existence donne naissance à tout un imaginaire délirant qui va donner à la technique la mission de guérir l'homme du malheur d'exister. Vous voyez que là, on a affaire à un désir qui n'a rien à voir avec le besoin dont parlent souvent les sociologues ou les économistes. Et nous projetons sur la technique notre désir de faire apparaître de nouvelles formes d'être. Alors, j'ai essayé d'illustrer ce point de vue à travers des analyses de certains chapitres de ce livre, par exemple de la représentation de la technique dans les films de science-fiction, et qui sont un matériau extrêmement intéressant, souvent sous-utilisé par les philosophes. Voilà, donc du coup, nous entretenons avec la puissance technique un rapport de fascination qui fait oublier toute prudence. Il y a dans la technique une puissance mythogène. La technique, n'est-ce pas, nous la vivons à travers des mythes qui nous rend aveugles aux dégâts du progrès. D'une part, donc une sorte de cécité. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à voir, que nous n'arrivons pas à enregistrer. Et cette puissance mythogène de la technique nous rend aussi, elle a aussi partie liée avec une certaine violence. N'est-ce pas ? L'attente, si on projette sur nos techniques, le désir d'une transmutation de l'existence, il en résulte une sorte d'impatience exaspérée à l'égard précisément des cadres de l'existence et voire même à l'égard des existants concrets et de leurs limites qui deviennent vécus comme autant d'obstacles qui font surmonter. Un très bon exemple que j'analyse dans ce livre de cet état d'esprit, c'est un film qui est d'ailleurs devenu un classique de la science-fiction. C'est le film de Cronenberg qui s'appelle La Mouche, hein, qui reprend finalement, qui décalque un certain nombre de thèmes empruntés au Faust de Goethe, hein, où l'innovation technique est nettement vécu et présenté comme au service, si vous voulez, d'un projet alchimique de purification. Et évidemment, le film de Cronenberg est assez ironique, puisque plus, grâce à sa virtuosité technique, le héros veut, en quelque sorte, échapper à l'existence et s'angéliser, voyez, plus il fait la bête. Plus il se bestialise, hein, plus il se dégrade. Cet imaginaire techniciste, dont on peut repérer les manifestations dans de nombreuses productions culturelles, c'est un imaginaire de la toute-puissance, de la désincarnation, de la détemporalisation. Et j'ai essayé de consacrer d'ailleurs tout un chapitre à la notion de pensée artificielle et à sa genèse, pour mettre en évidence le potentiel mythogène de l'informatique et de l'idée de pensée artificielle. Je vais me permettre de vous lire une citation. C'est que bien avant qu'on ait les théories de la communication, les théories modernes de la communication, si on remonte dans l'histoire de la culture, on s'aperçoit que dès l'Antiquité et au Moyen-Âge et à la Renaissance en particulier, il y a eu tout un intérêt très fort pour l'animation, pour le calcul combinatoire et pour les techniques de contrôle dynamique des forces de la nature. Si on compare les procédures et les méthodologies anciennes et nouvelles, on s'aperçoit que la science et la technique moderne ne peuvent être comprises sans une référence aux problèmes ontologiques qu'elles essaient de résoudre. Et de ce point de vue, les solutions tentées par les modernes sont souvent analogues à celles que la magie, la gnose et l'hermétisme avaient mises en œuvre. Voyez, avec une même vision de l'homme comme opérateur, qui, grâce à ses talents, participe à un grand œuvre, qui cherche à transmuter l'inerte en un vivant spirituel, à réunifier la nature en une totalité primitive dans laquelle l'homme cesse de s'éprouver comme un être séparé. On trouve de très nombreuses illustrations dans le cinéma. Je pense au succès d'un film comme Matrix, par exemple, voyez, en particulier le premier, Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est que là, on voit bien que nous projetons sur nos techniques, n'est-ce pas, nos désirs d'un dépassement de l'existence. Ça donne un potentiel mitogène à la technique qui nous empêche à la fois d'anticiper et de tirer les leçons du passé, finalement de tirer parti de l'expérience. Alors j'ai essayé d'illustrer cette affirmation. Et j'ai trouvé un certain nombre d'illustrations assez étonnantes, un peu inattendues. Je pense à une nouvelle d'Edgar Poe qui s'appelle « L'ange du bizarre » qui tourne autour de l'accident. C'est un homme qui lit dans le journal, c'est l'histoire d'un homme qui lit dans le journal le récit d'un accident qui est arrivé à quelqu'un parce qu'il avait utilisé une sarbacane à l'envers. Donc il s'était percé l'œsophage ayant été mort. Et le lecteur entre dans une colère terrible en disant « Il y en a marre qu'on nous parle des accidents. Je ne veux plus entendre parler des accidents. Les événements singuliers ne peuvent rien nous apprendre. » Vous voyez ? Et il décide, et sur un ton d'ailleurs qui est une sorte de démarquage du style de Descartes, que désormais il ne croira plus rien au sujet des événements singuliers, qu'il refuse d'y attacher une quelconque importance. Et à ce moment-là, précisément, il est interpellé par un personnage étrange, grotesque, dans le style de Poe, qui est précisément l'ange du bizarre, et c'est l'ange aussi du singulier, parce qu'en anglais, le mot « odd » veut dire à la fois « étrange » et « singulier ». Et c'est d'ailleurs dommage que Baudelaire ait utilisé la traduction « bizarre », parce qu'en réalité, par rapport à la logique du texte d'Edgar Poe, c'est bien du singulier qu'il s'agit. Et cet ange administre à cet imbécile, qui est un progressiste borné, une sorte de monsieur Homé, si vous voulez, la démonstration que non seulement les événements singuliers arrivent, mais en plus ça peut lui arriver, à lui. Et c'est évidemment une série de catastrophes. De manière complémentaire, j'ai accordé une certaine importance à un texte très peu connu en France, très rarement commenté. C'est un texte de Thomas de Quincey, qui s'appelle « La malle-poste anglaise », et qui lui aussi tourne autour du thème de l'accident. Alors, le texte de Poe, lui, disait, au fond, nous mettait en garde, il disait « Les événements singuliers peuvent venir détraquer nos projets techniques. » Par exemple, on a un beau paquebot et on a un capitaine qui est incompétent. Bon, c'est ce qu'on appelle toujours le facteur humain. Vous savez, pour dire que la technique elle-même n'était pas risquée, mais que s'il y a un désastre, c'est parce qu'il y avait un facteur humain. Bon, le facteur humain, il fait partie de la réalité. Il y a des imbéciles partout. Bon, ils sont aussi capables d'appuyer sur un bouton pour déclencher une bombe atomique. Mais, et alors, le texte de Poe est construit pour nous expliquer qu'il faut faire attention, parce que le monde est beaucoup plus complexe que ce qu'on en sait, que nos arrangements techniques ne prennent en considération qu'une série limitée de facteurs, et que des événements singuliers peuvent venir sans arrêt tout détraquer. Vous voyez ? Bon, par exemple, une poignée de fanatiques. Merci. Je m'aperçois tout d'un coup que je suis allergique. Je ne sais pas à quoi. On peut avoir quelqu'un d'allergique aux commandes d'un avion et Voilà, et la catastrophe peut se produire à cause de ça. Je veux dire, il y a toujours une infinité de causes qui viennent perturber, qui peuvent perturber nos projets techniques. Voyez, et trop souvent, on l'oublie, hein, ce qui est un facteur de catastrophe. On n'est pas prudent. La nouvelle de Thomas de Quincy est très intéressante parce qu'elle dit que finalement, c'est l'histoire d'un accident qui arrive alors qu'il voyage de nuit sur la Malle-Poste sur une route anglaise. Et il heurte un petit attelage. Et le texte laisse penser que sur lequel il y a un couple d'amoureux. La Malle-Poste, à l'époque, ça roulait à 20 à l'heure, ce qui nous semble dérisoire pour nous, mais à l'époque, c'était extrêmement rapide. Et ça pesait à peu près une tonne, avec 4 chevaux qui tiraient. Et donc, racontant cet accident, Thomas de Quincy finit par suggérer qu'il l'a désiré et qu'il n'a rien fait pour l'empêcher. Vous voyez, c'est un texte assez subtil. Et justement, il insiste beaucoup sur l'ivresse de la vitesse. Et le cocher s'était endormi. Parce qu'il savait que, de toute façon, c'était un jour où il n'y aurait personne sur la route, donc les chevaux roulaient à plein galop, et il s'était mis du mauvais côté. Et le texte montre comment toute une série de causes indépendantes finissent par se rencontrer et produire cet accident désastreux, sur lequel, d'ailleurs, il ne s'arrête même pas, il continue. Et en fait, d'une certaine manière, il est le seul à en être témoin, puisque tout le monde dort. Il y a tout un tas de notations dans le texte qui est extrêmement bien construit, qui montrent que finalement, il voyait dans la nuit l'attelage qui arrivait en sens inverse. Mais qu'il était tellement pris dans cette extase de la vitesse qu'il n'a pas fait l'effort, pas eu la capacité, voyez, de prévenir le cocher et d'arrêter tout. Il avait quelques minutes. Voyez. Alors, c'est très intéressant parce que ce texte met le doigt sur la contradiction qui, évidemment, est devenue de plus en plus flagrante. La contradiction entre le temps humain et le temps technique. Nous vivons dans un monde d'accélération. Les innovations techniques se succèdent de plus en plus vite. Et par contre, pour maîtriser ces innovations techniques, l'humanité a besoin de temps. Elle a besoin de temps pour comprendre les effets, pour les anticiper, pour inventer des réponses, voilà. Et le problème, c'est que les choses vont tellement vite, c'est qu'à peine a-t-on repéré un problème et qu'on commence à chercher une solution, et que pour que ces solutions soient effectives, il faudrait qu'elles puissent intégrer dans les mœurs. Vous voyez, il ne suffit pas simplement de définir des règles. Il faut que ça s'intègre dans la culture, ce qui prend du temps. La capacité de réaction et d'adaptation, finalement, des sociétés humaines est complètement et de plus en plus débordée par le rythme accéléré de l'innovation technique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce risque-là a été mis en évidence. Vous voyez, ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui pratiquement tous les jours ont été mis en évidence dans les années 1850. Pas par des philosophes, pas par des sociologues, mais par des artistes. Et il a fallu à peu près un siècle pour qu'en Occident, on commence, mais très tard, à parler, par exemple, de société du risque. Voyez, alors que le texte de Pau nous avertissait avec beaucoup de clarté. Il disait, nous allons vers un monde du risque technologique. Voyez. Donc, il est intéressant de voir qu'un certain nombre de voix ont très tôt essayer d'attirer l'attention sur les risques qui étaient liés à cette situation de déferlement technologique dont je parlais tout à l'heure, voyez. Et le fait qu'elle n'ait pas entendu, d'ailleurs, est une manifestation de la puissance de cet imaginaire technique, de ces mythologies techniciennes, n'est-ce pas, qui déterminent la manière dont nous appréhendons la réalité, dont nous accordons ou n'accordons pas de l'importance à certains problèmes. Voilà. Donc, mon livre s'achève, si vous voulez, sur une réflexion sur est-il possible de retrouver du temps nécessaire, le temps nécessaire pour maîtriser cette accélération. Et bien évidemment, certains d'entre vous ont peut-être lu un petit essai de Daniel Halévy qui avait été publié après la dernière guerre mondiale, juste au moment de la bombe atomique, qui s'appelait « Essai sur l'accélération de l'histoire ». Et Daniel Halévy posait la question « Auront-ils le temps, justement, de reprendre les choses en main ?» Alors évidemment, à cette question, la seule réponse, c'est ce temps, il faut le prendre. Mais ce temps, il faut le prendre, ça suppose évidemment un effort de pensée, un effort de réflexion, mais aussi un effort sur les choses, et en particulier un effort de maîtrise du rythme de l'innovation. Je pense que le rythme actuel d'innovation technique est trop rapide, qu'il nous ôte le temps nécessaire et qu'on est dans une situation à risque extrême. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Bien. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à la salle, j'aurais peut-être une question à poser. Si vous me le permettez, question vraiment générale. Je me disais en t'écoutant que le livre permet de comprendre certains projets venant de La Rochelle, par exemple, l'accumulation de projets, de grands projets techniques hautement dangereux, classés Céveso, seuil haut, etc., dans un quartier qui est proche des habitations, paraît complètement incompréhensible vu des habitants proches. Et c'est vrai que cette dimension de l'imaginaire techniciste peut-être offre une clé de compréhension. Mais d'une manière plus générale, la question que je voulais poser, c'est pourquoi finalement, est-ce qu'il est plus pertinent ou plus utile, d'après toi, de poser la question de la société technicienne plutôt que le problème de la société de croissance, par exemple, dans le domaine de l'économie, ou de la société industrielle, ou de la société du spectacle. Qu'est-ce qui fait que aborder la question de la modernité par cette question de la technique, finalement, est peut-être peut-être une clé particulièrement intéressante?
D'abord, c'est une clé. Et malheureusement, on n'a pas la clé qui ouvre toutes les portes. Mais je pense que c'est une clé importante. Effectivement, je pense que cette situation, si vous voulez, l'analyse économique, la pensée économique ne permet pas de penser tous les risques auxquels nous sommes confrontés et les phénomènes de désorganisation. Et je pense qu'effectivement, par exemple, elle ne permet pas de comprendre, moi, quelque chose que j'observe en tant que sociologue, c'est la décomposition des modes de vie, la désymbolisation de la culture et la perte de repères communs, etc. Alors que la réflexion sur la technique permet de mieux comprendre certaines logiques. Ça ne les éclaire pas toutes, bien entendu, mais je pense que on ne peut pas faire l'impasse sur la réflexion sur les processus techniques eux-mêmes.
Je pense juste une citation que je viens de lire de Bernard Stiegler dans le journal Réforme la semaine dernière. « La question n'est pas la technique, c'est le fait que la technique a été mise en œuvre exclusivement par l'économie qui, du même coup, a elle-même dégénéré en ce que certains nomment une déséconomie. » Donc là, il y a un vrai choix et une...
Oui, là, il y a un conflit. Enfin, je veux dire, il y a une discussion importante. Je pense qu'il y a beaucoup de projets techniques qui ne s'expliquent pas par... la recherche du profit. Alors, c'est vrai que le profit, à partir du moment où on met en œuvre des logiques collectives, il y a toujours une dimension économique, il y a toujours une dimension de profit. Mais on voit bien, par exemple, des opérations techniques qui sont mises en œuvre, pas du tout dans le cadre d'une logique capitaliste, mais par exemple par les États. Vous voyez, au nom, dans une perspective d'intérêt général, hein, avec des. Et parfois à des coûts extraordinaires. On ne peut pas expliquer simplement par la recherche du profit quelque chose comme la conquête spatiale. Vous voyez, c'est pas dans lequel on engloutit des sommes pharaoniques. Avec des retours. Bon, on nous dit, c'est bien, ça fait des retours pour la science. Bon, alors tout le monde dit, bravo, mais ça montre bien que... Alors, il y a certainement, évidemment, à partir du moment où on déclenche la conquête spatiale, ben, il y a des entreprises qui aident à construire les fusées, qui aident à construire les appareillages, etc. Et évidemment, il y a toujours, du coup, on déclenche un processus social qui a intérêt à maintenir ce genre de choses. Mais le moteur, hein, dans ce domaine-là, n'est pas le profit, parce qu'on aurait pu déclencher autre chose dans lequel d'autres industries auraient pu aussi s'investir. Voyez ? Donc, bien sûr, il y a toujours des gens, quoi qu'on fasse, qui font du profit avec. Hein. Je suppose que lorsqu'on a décidé de construire le pont de pierre à Bordeaux, il y a quelques entreprises à qui ça a rapporté, et qui étaient très contentes, et qui auraient été sans doute contentes d'en construire un second. Il n'y avait pas les moyens. Donc l'économique n'explique pas tout. Hein, le capitalisme n'explique pas tout. Quand on a lancé le projet Hugo de décryptage du génome humain, c'est un projet qui a demandé la collaboration d'un grand nombre d'universités, d'instituts, etc. Ce n'était pas pour des raisons capitalistes. Ce n'était pas simplement pour le profit. Hein, c'est pour... Bon, derrière, il y a quand même toute une idée d'améliorer l'homme, finalement, et éventuellement de trouver des moyens pour le transformer. Donc, si vous voulez, des projets de ce type-là ne relèvent pas de l'analyse économique. Bien entendu, ils demandent des moyens colossaux. Alors, une fois qu'on les a mis en place, là, on peut décrire économiquement.
Merci. On va être obligé de s'arrêter maintenant. Peut-être juste avant, Philippe Louiset voulait dire quelque chose.
Oui, c'est simplement pour vous indiquer qu'en rapport avec l'association Aquitaine Charbonneau Ellul, et avec en particulier Dominique Ellul, on a récupéré de très nombreuses cassettes d'enregistrement de Jacques Ellul. Alors, notamment le cours de philosophie du droit, également beaucoup d'études bibliques, vous savez qu'il en a fait pendant 45 ans, et nous cherchons des bénévoles qui seraient prêts à les transcrire, c'est-à-dire donc écouter Ellul et aussitôt frapper, pour de façon à ce que ce soit, un moment ou un autre, publié, rendu accessible, par Internet ou autre moyen, évidemment en accord avec les enfants élus au préalable. Donc, pour ceux qui seraient prêts, intéressés, à ce moment-là, on est en mesure de vous donner une clé USB. Hein, et il suffit ensuite, avec un petit ordinateur ou tout autre moyen, d'écouter. Et, oui, il faut un ordinateur, bien sûr. Écouter et transcrire. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, c'est un travail qui est très fastidieux, qui est très long. Mais s'il y a des bénévoles qui sont prêts à le faire, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, je suis là, et je vous donnerai les coordonnées de façon à ce qu'on on échange.
Il nous reste...
Alors,
oui, vas-y.
Pour conclure, donc, je vous ai présenté mon livre, j'espère qu'il vous passionne. Quand même, ne le volez pas.
Merci beaucoup, bonne soirée. Si vous voulez être tenu également informé des activités de l'association, vous avez la possibilité de vous inscrire sur une feuille qui est placée à l'entrée. Merci encore, bonne soirée.